de l'imprimerie nationale, puisque nous sommes détenteurs en France d'un patrimoine exceptionnel, unique au monde, dont je vais vous demander de nous dire deux mots, et je voudrais que s'introduise maintenant dans cette conversation quelqu'un qui fait partie, comme vous, de l'association Garamond Patrimoine et qui milite au quotidien, c'est qui ça. Va nous c'est donner ça. Tout à l'heure l'état actuel de la question, c'est Alain Joly. Bonjour Alain Joly.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Bonjour Jérôme.
Alors, Jérôme Peignot a commencé il y a quelques années, et vous, aujourd'hui, vous occupez donc au jour le jour de cette association. Vous nous direz
dire
les choses sont pas trop... Alors, un petit mot tout de même. Sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui ce fameux patrimoine de l'imprimerie nationale qui risque d'être dispersé. Rapidement.
Je vais très vite. L'imprimerie nationale a été propriété de l'État jusqu'à une période assez récente où elle est devenue une entreprise privée. C'est-à-dire que du capital privé est entré dans la gestion de l'entreprise. Bizarrement, l'imprimerie nationale est toujours propriété de l'État. C'est toujours le ministre des Finances qui est le grand patron. En titre de l'imprimerie nationale.
La tutelle, c'est ça. C'est
qu'est-ce qui s'est passé à partir des années, justement, à partir de ce transfert de fonds du public au privé, qu'est-ce qui s'est passé à l'imprimerie nationale? Alors, en même temps, s'est passée la révolution de l'informatique. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce plomb? Qu'est-ce qu'on fait de ce plomb? C'est-à-dire des plombs dans 80 langues différentes. Des poinçons, en particulier des poinçons du Garamond. Des machines qui sont là depuis François Ier.
Alors un poinçon, ça sert à quoi en imprimerie? Ça sert à fabriquer les caractères.
Ça sert à fabriquer une matrice dans laquelle on enfourne du plomb pour faire les caractères. Alors, il y a plusieurs façons de faire les caractères. Il y a les caractères de fonderie, où il y a les caractères dits monotypes. Il y a aussi la linotype. Mais ce plomb n'est plus en usage. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce plomb? Alors, je milite, je dis parce que je m'en vante, je me suis battu parce que je fais partie d'une famille de fondeurs de caractères d'imprimerie. Mon nom c'est Peignot, je participais à, ma famille a travaillé dans une fonderie, ça s'appelle la fonderie de Berny et Peignot, qui fabriquait des caractères d'imprimerie.
Et là, c'est votre héritage qu'on dilapide.
Je me suis employé au transfert des poinçons de la fonderie de ma famille à l'imprimerie nationale.
Et voilà qu'on vous les embarque.
Alors,
on ne sait pas où.
Alors maintenant, ils sont enfermés. Ils étaient enfermés rue de la Convention, où il y avait un énorme immeuble où tout ça se trouvait stocké. Alors aujourd'hui, si vous passez devant la rue de la Convention, vous verrez que des bulldozers sont en train de défoncer les murs pour enlever tout ça. Et pour enlever tout ça, pour le mettre où? Et pour en faire quoi?
Alors aujourd'hui, le doute demeure.
Le doute ne demeure pas. On est en train de stocker ça à Ivry,
dans des containers.
Dans des endroits, en tout cas, qui ne peuvent être, comme dit Alain, dans un lieu provisoire. Mais si c'est un lieu définitif, c'est une catastrophe. Parce que tout ça doit être entretenu. 30 000 volumes, par exemple, ça se conserve.
Alors, Alain Joly, une bibliothèque d'un côté, le cabinet des poinçons, et puis un troisième patrimoine extraordinaire à l'imprimerie nationale, et ça vous touche de près, puisque vous êtes vous-même typographe, c'est l'atelier du livre. Alors, un mot sur cet atelier du livre, qui est lui aussi en grand péril.
Oui, ce qui est intéressant et assez exceptionnel dans cet ensemble, c'est que l'on a là groupé la totalité des savoirs historiques de l'imprimerie, donc avec d'une part toute cette partie spectaculaire et fondamentale de l'invention de Gutenberg qui est celle des poinçons et de la fonderie des caractères, d'autre part cette bibliothèque dont Jérôme faisait état qui a 30 000 ouvrages dont 5 000 qui ne traitent que d'imprimerie et de l'écriture et à côté de cela, un atelier
avec des gens qui ont des compétences, qui vont se perdre s'ils ne les transmettent pas.
Il y en a beaucoup qui ont déjà été mis à la porte.
Certains sont les derniers. Il y a par exemple un phototypiste. Ce phototypiste, il est seul à détenir son savoir. Il existe en province un amateur éclairé qui ne reste qu'un amateur qui connaît ce savoir. Mais le jour où ce phototypiste arrête son activité, il ne peut plus le transmettre à personne. La gravure des poinçons, il y a Néligable qui est à l'heure actuelle conservateur, elle souhaite qu'on utilise ce terme, du cabinet des poinçons depuis la mise en retrait volontaire de Christian Papu, elle est seule en Europe, ou à peu près. Ils sont 4, 5 peut-être dans le monde à connaître cette technologie. Elle est la seule professionnelle en exercice, etc., etc. Donc on a là une... j'ai utilisé le terme horrible de pépinière, donc, parce que ce sont des gens qui sont tous sur la fin de leur carrière. Ce sont des métiers qui nécessitent parfois une dizaine d'années ou plus pour pouvoir les pratiquer correctement.
Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des gens, j'imagine, au sein de l'école Estienne, notamment, qui est quand même la grande école en la matière, qui transmettent ces savoirs. Après ces 15 personnes de l'atelier du livre, on ne ferme pas quand même définitivement la porte.
Alors, pas tout à fait. Et à l'école Estienne, grâce à l'initiative d'enseignants et puis du proviseur, qui est quelqu'un de très actif dans ce domaine, l'imprimerie qui était autrefois un métier exclusivement masculin est en passe de se féminiser puisque le proviseur d'Estienne est une proviseure. On bien sûr un atelier qui s'appelle le LEG et qui est le laboratoire d'études graphiques et qui apprend à tous les étudiants qui passent par l'école quelques-unes de ces techniques. Mais une fois encore, il ne s'agit que d'exercices. Tous les métiers ne sont pas représentés et on n'a pas cet ensemble cohérent qui existe à l'Imprimerie nationale. Donc là, cet atelier du livre aurait tout naturellement sa place, bien évidemment, à l'école Estienne. Malheureusement, la place à Paris est comptée. L'école Estienne est trop petite. Alors il y a peut-être un projet architectural qui permettrait d'inclure notre projet que nous appelons Cité.
Alors, parle-nous de Bobigny.
Ouais.
Alors, Bobigny, semble-t-il, pourrait vous accueillir.
Voilà.
Dans un lieu qui était d'ailleurs autrefois le lieu de l'illustration, c'est bien ça.
C'est ça.
Autant l'école Estienne est un lieu mythique de l'enseignement des métiers de l'imprimerie, autant l'imprimerie de l'illustration à Bobigny, qui est juste à côté de l'ancien hôpital franco-musulman qu'on appelle maintenant l'hôpital Avicenne, est un bâtiment qui a été inauguré en 1933, qui est assez exceptionnel, un bâtiment de briques très très beau, gigantesque, et qui est maintenant sous la tutelle de l'Université Paris 13.
Alors où en est la possibilité du transfert de cet atelier du livre à Bobigny?
Eh bien, il y a un projet gigantesque de réhabilitation de ces bâtiments au profit bien sûr de l'université. Pour en faire le premier campus universitaire totalement ouvert au public. C'est unique en France, ça sera unique en France. La communication est l'un des thèmes traités à Paris 13 et en principe, sous peine de vérification, l'Université Paris 13 va ouvrir un IUT de métier de l'imprimerie.
Alors, qu'est-ce qui manque pour l'instant? Ce sont les fonds, j'imagine.
Pardon?
Ce sont des fonds qui manquent pour l'instant.
Alors, des fonds, non, enfin... Oui, bien sûr, toujours, c'est toujours un problème. Non, pour l'instant, il s'agit surtout de volonté politique. Donc là, il est évident que toutes les instances régionales, départementales, communales et l'université elle-même veulent faire de ce lieu un lieu qui s'appellera la Maison internationale de l'illustration, un lieu de référence, et que, bien évidemment, l'ensemble de ces personnes sont toutes très, très, très intéressées à ce que notre projet cité puisse être abrité dans ces locaux.
Alors, cette votre inquiétude, Jérôme Peignot et Alain Joly, au jour d'aujourd'hui. Où en est la question? Vous avez recueilli 21 000 signatures. Dites-nous.
Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une pétition à la Foire de la Poésie il y a 4 ans.
Oui, non, mais aujourd'hui.
Et puis alors, tout d'un coup...
Vos signataires, qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Nous sommes une vingtaine qui ont décidé de mettre ça sur ordinateur et sur Internet, et nous avons recueilli plus de 20 000 signatures. C'est ça, hein, là. 20 000 signatures provenant de professeurs d'universités du monde entier, Colombie, aux États-Unis, le Canada, le Japon.
Non, mais c'est très bien, ça donne du lustre à votre mouvement.
Alors, on envoie tout ça au président
mouvement
de la République, et le président de la République répond pas, fait rien. Et les pouvoirs publics ne font rien. Et finalement,
c'est complètement bloqué.
Mais c'est un petit peu, voyez-vous, si on a construit la Tour Eiffel, mais on a construit aussi la gare Montparnasse. Alors on va détruire la Tour Eiffel parce que c'est plus intéressant, parce que la gare Montparnasse c'est beaucoup plus efficace. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine qui est un savoir inestimable?
Alors Alain Joly, vous qui êtes sur le dossier au jour le jour, au quotidien.
Oui.
Aujourd'hui, le problème est le suivant, c'est que du côté de Bobigny, tout semble se présenter de façon extrêmement favorable. Mais maintenant, comme Jérôme l'a exprimé tout à l'heure, l'imprimerie nationale a un ministère de tutelle qui est celui des finances. Tant que ce ministère ou tant qu'une instance supérieure, c'est-à-dire le Premier ministre ou le Président de la République, n'auront pas exprimé clairement la volonté
Ça va végéter.
Voilà, exact.
Alors, est-ce que tout ça ne va pas de pair avec quand même une absence d'intérêt manifeste pour toutes les questions qui tournent autour de la langue, plus largement, puisque on a dit effectivement écriture langue, c'est pas la même chose, mais là on s'aperçoit que ce désintérêt peut-être en rejoint un autre, Olivier Germain-Thomas, parce que c'est une question qui vous préoccupe beaucoup.
Je trouve que l'état de l'enseignement de la langue dans les lycées français, en dehors de lycées et collèges, en dehors de quelques exceptions dans les beaux quartiers, est absolument catastrophique. Et c'est parce que justement on néglige la langue, on le néglige pour d'autres matières.
On néglige l'écriture et l'imprimerie.
Tout se tient. Et c'est parce que ceux qui dirigent n'ont pas compris que la langue est quelque chose qui structure l'esprit. Quand on dit qu'il faut simplifier le langage, c'est une connerie monumentale. Ah, regardez quand même la société japonaise qui apprend une des langues les plus compliquées du monde. Trois systèmes de transcription. Et ensuite, quand vous les voyez devant l'informatique, il dépasse le monde entier. La langue structure. C'est une cause nationale la plus importante qu'il y a aujourd'hui, qui est la défense de l'enseignement de la langue française dans les lycées et dans les collèges. Voilà.
Avancer cette question, on peut continuer de signer après tout cette pétition, hein, gare à mon patrimoine, en un seul mot.
Donc gare à mon patrimoine.org. Non, pas FR.
Alors, allez-y, gare à mon patrimoine.org.
Et si vous me permettez un instant.
Non, parce qu'on est en train de finir l'émission.
Non, mais Alain va être plus précis que moi.
Alors, le site?
C'est www.garamonpatrimoine, c'est comme gare.
En un seul mot.
Patrimoine.org, où on trouvera toutes les informations. Et je voudrais un instant rebondir sur ce qu'a dit Olivier Germain-Thomas pour dire que ce projet cité est un projet complètement tourné vers l'avenir. Parce qu'on a toujours tendance à.
Oui, à penser patrimoine un peu comme ça, conservatisme, oui.
Conservatisme, non. Là, pas du tout, ça doit être un outil de travail pour les générations futures.
Très bien, merci. Alors, aussi des lectures, bien entendu, Histoire et art de l'écriture par Marcel Cohen et Jérôme Peignot, collection bouquins dit sur la fond. Et puis également vos petites nouvelles là, qui viennent de paraître, Jérôme Peignot, Broyer du bleu, ça vient de paraître aux éditions du Rocher, aux mêmes éditions du Rocher, donc une promenade tout aussi érudite, mais plus détendue et moins tout de même agressive. Un matin à Biplos, Olivier Germain-Thomas, donc l'un de ses récits de voyage. Le précédent, d'ailleurs, se déroulait dans cette Chine dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Donc, un matin à Biblos, Olivier Germain-Thomas, c'est l'édition, du Rocher. Puis, on vous retrouve tous les dimanches soirs sur France Culture pour Fort Intérieur. Également,
Merci.
Ah oui.